Alors bienvenue à chacun et chacune pour cette formation du cycle 2 d'approfondissement sur comment être missionnaire, être missionnaire. Voilà, nous allons parler ce soir un petit peu pourquoi l'Église évangélise, pourquoi les chrétiens évangélisent, pourquoi nous sommes invités par le Seigneur à évangéliser. Alors peut-être tout d'abord se dire cela en fondamental, Dieu désire se faire connaître. Voilà, Dieu désire se faire connaître, il veut montrer qui il est, il veut véritablement faire rentrer l'homme dans sa vie divine. Encore une fois, c'est le premier article du catéchisme de l'Église catholique, Dieu a librement créé l'homme pour le faire participer à sa vie bienheureuse. Donc Dieu veut se faire connaître, c'est-à-dire que l'homme n'ait pas de fausse idée sur lui, mais véritablement qu'il sache qu'il est Trinité. Qu'il sache que le Fils éternel s'est incarné et qu'il est le Sauveur. Qu'il sache vraiment ce qui concerne le vrai Dieu et ce qui n'est pas du vrai Dieu. Voilà. Que l'homme quitte les idoles ou même les religions plus ou moins dans la vérité. Qu'il soit vraiment dans la vérité révélée. Dieu veut cela. Hein ? Quelque part, notre vision que nous avons en disant « mais Dieu permet cela », peut-être. Mais Dieu veut se faire connaître à tous comme le Dieu Trinité. Dieu veut se faire connaître pleinement. Deuxièmement, Dieu veut donner son amour. Dieu veut faire rentrer l'homme dans une communion avec lui-même en tant qu'il est Trinité. Et Dieu veut donner son amour. Certainement, le Seigneur est en attente de pouvoir faire cela pour tout homme. Voilà, il a un désir jaloux que chacun se tourne vers lui et le connaisse. Et puis enfin, Dieu veut sauver l'homme. Dieu veut sauver tout homme. Voilà. Il n'y a pas une personne dans la rue que nous pouvons rencontrer. Le Seigneur a envie de sauver toutes ces personnes-là, de se révéler à eux, de donner son amour et de leur donner le salut, de leur pardonner leurs péchés, de les faire grandir en humanité, de leur faire marcher sur un chemin de libération, de vie. Voilà. Dieu veut se faire connaître, Dieu veut donner son amour, Dieu veut sauver l'homme. Et donc ça, c'est le moteur premier de l'évangélisation. Et l'homme ne sera heureux que si et seulement il réussit à accueillir Dieu dans sa vie, à le connaître, à l'aimer, à accueillir son salut. Si l'homme n'accueille pas le salut, n'a pas la connaissance du vrai Dieu, quelque part, il ne va pas vraiment vivre sa vie. Il vivra sa vie, mais ce ne sera pas la pleine vie, ce ne sera pas le plein bonheur. Voilà. Et ça risque même de manquer à sa vie éternelle. Voilà. Alors Dieu aurait pu faire ça tout seul. Il aurait pu dire, je me révèle à tout le monde, peut-être en mode direct, c'est-à-dire, il apparaît dans le ciel à tout le monde, on n'en parle plus, ou alors dans les cœurs à chacun, on n'en parle plus, et je donne mon amour comme je veux à tout le monde, très bien, je sauve tout le monde d'un coup, très bien, au cas par cas. Mais Dieu n'a pas fait comme ça. Et dès l'histoire biblique, Dieu ne fait pas comme ça. Dieu passe par des médiations. Dieu va passer par Abraham pour se révéler. Dieu va passer par les patriarches, par les rois, par les prophètes, par le Christ, par les apôtres, par les disciples, par l'Église, par les missionnaires, par les baptisés. Donc Dieu passe par des médiations. Et s'il l'a voulu ainsi, c'est que dans sa sagesse, il a jugé que c'était le meilleur moyen. Donc, à nous de jouer. Quand je dis cela, ça implique que une bonne partie de la non-connaissance de Dieu est due à la faillite des médiations. Dieu veut, et s'il veut, il donne les moyens. Si ça ne se fait pas, c'est parce que les médiations ne veulent pas participer à son vouloir. Ou elles croient qu'elles n'auront pas les moyens. Pourtant, Dieu donne les moyens quand il veut. Donc, une des faillites de la perte du christianisme en Occident, c'est que les médiations humaines n'annoncent plus le Seigneur, qui il est, son amour, et que c'est le salut. Parce que Dieu veut le faire. Voyez ? Donc, il y a un enjeu. Il y a donc une responsabilité pour tout homme qui connaît le vrai Dieu, on va voir, de l'annoncer. Cette responsabilité nous met dans une urgence. Il y a une urgence de la mission. Comme dira Paul, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Il y a une urgence. Je cite une parole de Dieu qui est forte dans le prophète Osée. Mon peuple meurt faute de connaissance. La connaissance du vrai Dieu permet de vivre. C'est une connaissance de vie. Mon peuple meurt faute de connaissance. Il faut être clair, les mots MAUX de notre société trouvent leur racine dans le manque de spirituel et de connaissance de l'Évangile. Le jour où l'Évangile est remis en place, les mots MAUX tomberont. Le salut de notre société, c'est l'évangélisation. Les médiations humaines doivent prendre leur responsabilité à évangéliser, à faire connaître le vrai Dieu, à être intermédiaire pour donner l'amour de Dieu et pour apporter le salut. Donc ça, c'est important. Et donc, il faut garder cet esprit d'urgence. Et en même temps, on va voir urgence et confiance. Les deux sont liés. Pas confiance et ramollo, et pas urgence et peur. Urgence et confiance, les deux sont liés. L'histoire de l'évangélisation, au sens de l'annonce du Christ. Alors, peut-être qu'on va prendre, on va citer trois textes ce soir. On va citer Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile du pape François, qui est une exhortation post-synodale après un synode sur la nouvelle évangélisation. On va citer la lettre au début du nouveau millénaire de Jean-Paul II, Novo Millennio Innuente, qui est une charte pour le troisième millénaire. Voilà, il y a un passage sur la nouvelle évangélisation. Et on va citer peut-être la charte tout court de l'évangélisateur, un texte très condensé, synthétique, mais très clair, du pape Paul VI, l'évangélisation dans le monde moderne, Evangelii Nuntiandi, de 1975, qui n'a pas pris une ride. Voilà, c'est presque la Bible de l'évangélisateur, ce texte. Et lui-même dit, cette parole, qu'est-ce qu'évangéliser ? Qu'est-ce qu'évangéliser ? Et voilà ce que dit le pape Paul VI. Évangéliser pour l'Église, c'est porter la bonne nouvelle dans tous les milieux de l'humanité et par son impact, transformer du dedans, rendre neuve l'humanité elle-même. Voici que je fais l'univers nouveau, dit Dieu. Mais il n'y a pas d'humanité nouvelle s'il n'y a pas d'abord d'homme nouveau, de la nouveauté du baptême et de la vie selon l'Évangile. Le but de l'évangélisation est donc bien ce changement intérieur. Et s'il fallait le traduire d'un mot, le plus juste serait de dire que l'Église évangélise lorsque, par la seule puissance divine du message qu'elle proclame, elle cherche à convertir en même temps la conscience personnelle et collective des hommes. L'activité dans laquelle ils s'engagent, la vie et le milieu concret qui sont les leurs. Je répète, le plus juste serait de dire que l'Église évangélise lorsque, par la seule puissance divine du message qu'elle proclame, elle cherche à convertir en même temps la conscience personnelle et collective des hommes, l'activité dans laquelle ils s'engagent, la vie et le milieu concret qui sont les leurs. Donc c'est toute la personne, hein, sa conscience, sa relation avec autrui, son lieu d'activité, son travail, le mode de vie, les milieux, tout à évangéliser. Voilà. L'évangélisation est donc, c'est tous les hommes et tout l'homme. Tous les hommes et tout l'homme à la lumière de l'Évangile. Cette activité, elle a pris une dimension publique avec la Pentecôte. Déjà, dans l'Évangile, nous avons le commandement missionnaire. En Matthieu 28, « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et apprenez-leur à garder les commandements. Donc là, on a le commandement missionnaire à toutes les nations. Dieu veut que toutes les nations le connaissent, comme Père, Fils et Saint-Esprit. Ça passe par le baptême, ça passe aussi par l'annonce, l'éducation des commandements de Dieu. Très bien. Dans la Pentecôte, le Seigneur va donner une grâce de force aux premiers disciples qui vont proclamer la foi. C'est le premier kérigme. C'est un mot qu'on emploie les chrétiens, c'est-à-dire un discours condensé, une proclamation condensée de la foi qui dit tout. Le Jésus que vous avez tué, il est ressuscité, il était mort pour nos péchés, il est ressuscité, il est le salut, nous vous l'annonçons, vous pouvez être baptisé. En gros, c'est ça. Pierre va proclamer le kérigme à Jérusalem, à la suite de la Pentecôte, et 3000 hommes vont être convertis. Voilà. C'est le début de l'évangélisation. Avec la Pentecôte, l'Église qui naît devient missionnaire. Et l'acteur, nous le verrons, de l'évangélisation, de la mission, va être le Saint-Esprit, qui va guider l'Église. Voilà. Dans le fil des temps, on va voir donc les apôtres, les disciples, il va y avoir les martyrs, qui vont être des semences de missionnaires. Voilà. Là où le sang des martyrs est semence de chrétiens, voilà, il va y avoir des martyrs. Puis après, il y aura le martyr blanc, qu'on va partir, par exemple, de 317, 313, avec Constantin, quand il y aura la paix entre, pour les chrétiens, ben, va s'installer un régime de chrétienté sous l'Empire romain. Et donc, à ce moment-là, quelque part, on va passer du martyr rouge, du martyr du sang, comme un élément missionnaire, à au martyr blanc, le témoignage de sa vie pour le Christ, et qui ça va interpeller, et va apparaître des gens qui vont aller dans le désert, à la suite d'Antoine, etc., qui vont être le début du monachisme. Voilà, c'est, les moines vont évangéliser. Et après, ils ont évangélisé pendant tout le Moyen-Âge, à travers la transmission de l'écriture, la méditation, la transmission du judéo-christianisme irrigué par la transmission aussi de la philosophie. Voilà. Et puis après, on va avoir les ordres mendiants qui vont évangéliser. Bien connus sont en particulier les frères prêcheurs, les dominicains, et les frères mineurs, Saint François d'Assise. Voilà. Il y a aussi les carmes. Voilà, c'est des ordres qui vont parler de Dieu, qui vont prêcher. Voilà. Un peu partout à travers une proclamation plus théologique ou une proclamation tournée sur la pauvreté du Christ. Voilà. Donc ça, c'est les frères mendiants. Et puis après, vous avez le grand âge dans l'histoire de l'Église des missions. Vous avez tous vu peut-être le film jésuite Missio. Mission. Il y a Robert De Niro qui joue dedans, qui vont, voilà, en Amérique latine. Voilà. Ce sont on a des grands missionnaires qui partent, et en particulier l'ordre des jésuites va avoir à cœur d'évangéliser, d'inculturer l'évangile dans toutes les sociétés. Voilà. Parce que l'évangile est purification d'une culture, et non pas la destruction de la culture, mais la purification de la culture. Il conserve ce qui est bon, et il purifie ce qui est mauvais. Voilà. Donc il y a une purification qui se fait à travers ça. Et puis après, vous avez aussi l'ordre des missionnaires, il y a eu, par exemple, il y a eu les Pères Blancs, il y a eu plein de choses dans les siècles passés qui ont évangélisé. Il y a eu les MEP, Mission étrangère de Paris, qui vont en Asie, etc. Donc il y a eu plein de lieux d'évangélisation. Et depuis l'originalité, depuis le Concile Vatican II, c'est la prise de conscience que ce mouvement d'évangélisation qui vient des apôtres, qui vient du Saint-Esprit, qui a été suscité par des ordres différents, des états de vie différents, c'est le propre du laïcat aussi. Et vous avez un décret de l'apostolat des laïcs dans le Concile Vatican II, avec cette mission que les laïcs eux-mêmes sont appelés à évangéliser dans leur état de vie. Voilà. Donc le Concile Vatican II a rappelé cette vérité du baptême, mais l'a affirmé dans un contexte contemporain, que toute personne est appelée à évangéliser, et c'est par l'apanage des super-héros qui seraient des super-missionnaires, des super-moines, des super-prophètes. Non, c'est tout le monde, de manière ordinaire ou extraordinaire, mais que certainement aujourd'hui, c'est l'heure du laïcat missionnaire. Voilà. Vatican II a ouvert cette porte que aujourd'hui, d'une manière particulière, les laïcs portent la mission. Voilà. Donc aujourd'hui, on a à prendre de plus en plus conscience que le Seigneur veut que nous soyons missionnaires. Voilà. Entendons cette parole. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Hein. Ça, c'est de Paul. Alors, on va voir tout cela, mais peut-être en amont dire des choses pour casser des préjugés. L'évangélisation, ce n'est pas du prosélytisme. Et nous avons bon dos aujourd'hui de renfermer toute proclamation de la parole publique dans une forme de prosélytisme. Ça arrange. Voilà. Non. L'évangélisation, c'est de l'information de survie. Je t'annonce cela pour ton bonheur, je t'annonce cela parce que je pense que tu en as absolument besoin, que sans ça tu réussiras pas ta vie, mais tu n'es pas obligé. C'est comme Bernadette, je suis censé vous l'annoncer, je suis pas censé vous faire croire. En cela, nous respectons profondément la liberté de la personne, nous ne l'imposons pas, Seul Dieu frappe à la conscience, on n'est que médiateur, encore une fois la fameuse médiation, mais on sollicite la liberté parce que la liberté est amenée à choisir à partir d'une connaissance qui lui est donnée. Or, sans connaissance, on ne peut rien choisir. Donc, elle a beau dos l'accusation contre le prosélytisme, elle fait silence sur tout, mais elle permet de rien choisir, parce qu'on ne sait rien sur rien. Donc, exactement, on peut dire un évangélisateur n'est pas un prosélyte, mais quelqu'un, dans le sens où on dit aujourd'hui le prosélytisme, mais quelqu'un qui annonce ce qu'il croit en pensant que c'est pour le meilleur de l'autre. En cela, évangéliser est un acte de charité. C'est même le plus grand acte de charité. De toutes les misères, la misère la plus grande, c'est de ne pas connaître Jésus-Christ. Donc pour un chrétien, c'est véritablement l'acte par amour, l'acte de charité par excellence. Ça, c'est important. Mais nous avons aussi une sorte de contexte qui fait que contexte ecclésial, on nous en sortons, et aussi contexte sociétal qui fait que l'évangélisation a été un peu paralysée. J'amène tout de suite un concept qu'a développé Jean-Paul II, qu'a repris Benoît XVI et que le pape François a quelque part répondu à ce concept en écrivant Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile. C'est le concept de nouvelle évangélisation. C'est-à-dire, en chrétienté, c'est-à-dire l'Europe occidentale, on va dire, pour faire simple, ou le monde occidental, un monde de vieille chrétienté, quelque part, lui qui avait reçu l'évangile en premier, s'est trouvé un peu comme tari au XXe siècle. Et donc, il y a un enjeu pour nous qui vivons en Europe de réévangélisation, de nouvelle évangélisation, comme le dirait Jean-Paul II, c'est-à-dire une nouvelle ferveur, dans un nouveau contexte, avec de nouvelles méthodes. L'évangélisation est de toujours, mais le contexte étant nouveau, qui étant un contexte d'athéisme, d'agnosticisme, surtout d'indifférence religieuse, ben nous avons à réévangéliser des strates qui ont pu être évangélisées ou qui ont oublié ou qui ne le sont plus du tout. Avec une nouvelle ferveur, parce que sinon la chrétienté, elle est empathique, elle s'endort, elle est tiède, et avec de nouvelles méthodes qui ne sont plus les anciennes. Voilà. Donc dans ce contexte de nouvelle évangélisation, peut-être un blocage qui pourrait nous freiner, c'est d'abord en interne. Plein de questions. Je parle au niveau du contexte ecclésial qui peut arriver, qui a pu être, pour une part, une réduction, alors je ne fais pas toute une catégorie, mais quand même, une réduction de la vie baptismale à la dimension sacerdotale et royale, et non prophétique. Vous savez que nous sommes prêtres, prophètes et rois par le baptême. C'est-à-dire que nous sommes prêtres, c'est-à-dire nous intercédons pour Dieu, nous rendons un culte à Dieu, royal, nous gérons nos biens selon une gouvernance qui voulue de Dieu, c'est-à-dire chaque chose à sa juste place, et nous sommes aussi de dignité du Père royal, très bien, et prophétique, nous annonçons par notre vie et par notre parole le message du Christ. Or, il y a pu y avoir une réduction de l'évangélisation simplement à la dimension cultuelle ou, j'allais dire, royale du service caritatif. Mais quand s'est fait la proclamation de la parole? La dimension prophétique, qui est réelle par son témoignage, parce que c'est déjà le prophète témoigne par sa vie, ça a toujours existé, mais l'annonce de la parole, comme le dit saint Paul, la foi naît de la prédication, et la prédication, c'est l'annonce de la parole de Dieu, la parole s'est tue à un moment donné. Dans beaucoup d'instances ecclésiales sans jugement, on a débattu pour savoir s'il fallait encore annoncer la parole de Dieu. Voilà, je ne citerai pas des exemples, mais j'en ai en tête, mais c'est vrai, et ça a été longuement débat. Ça veut dire que cette dimension prophétique, elle s'est un peu éteinte. Voilà. Et donc, quelque part, on a vécu plutôt sous le régime royal et sacerdotal, mais prophétique moins. Or, notre époque a besoin de prophètes, de gens qui témoignent du primat de Dieu et qui sachent parler avec conviction la parole de Dieu et l'annoncer. Voilà. Voilà ce que fait la parole de Dieu dans ma vie. C'est encore une fois la parole du jour. Hein. La veuve qui voit son enfant ressuscité, qui voit le prophète et dit, c'est vrai, la parole de Dieu, elle est vraie, elle est vraie. Donc il faut cette parole-là. Donc il y a quelque chose, quelque part, le contexte a fait que on a délaissé la prophétie. On a délaissé le visible, de l'Église, pour quelque part un peu sous le boisseau. Donc la parole, le signe, réapparaît aujourd'hui, l'habit aussi, parce que l'enjeu, c'est d'être prophète. C'est d'être prophète. Dans une société qui ne connaît plus, donc qui a besoin de voir le signe, qui a besoin d'entendre, surtout dans le contexte où on est dans l'hypercommunication à l'image, ben l'Église, sans se fourvoyer, toujours est-il, c'est qu'elle doit jouer le jeu de l'image et de la parole. Sinon, il n'y a pas de message. Vous voyez ? Retrouvons la dimension prophétique. Alors après, il y a des faux conseils. Donc ça, c'est le contexte, j'allais dire, peut-être conditionnant des catholiques. C'est beaucoup moins le cas des pentecôtistes, par exemple, qui évangélisent à tour de bras. Mais pour un catholique, par exemple, il est difficile de dire sa foi dans son milieu, dans son travail, dans sa famille. On la vit, mais on ne la dit pas. C'est chose un peu secrète. Mais or, ça fait partie de sa mission de prophète en tant que baptisé. Donc là, il y a une éducation, on va le voir, il y a un savoir-faire missionnaire à acquérir, mais il y a d'abord la conviction de croire que ça fait partie de notre vocation, à tous, et qu'on a à le faire. Donc voilà une sorte de contexte réducteur, un peu. Il y a aussi des a priori, c'est que on pense, on a une fausse conception du respect humain. C'est pour moi, mais c'est pas forcément pour les autres. Et si je lui dis, peut-être que je lui impose, peut-être que, voilà, je suis du prosélytisme, c'est pas le respecter. Alors ça, c'est complètement faux. Et c'est une fausse conception du respect humain. Alors, si on est convaincu que c'est la vie et que ça nous rend heureux, ben, si on le garde, c'est qu'on est égoïste. C'est là pour tout le monde. Et donc, quelque part, là-dessus, comment on comprend ce critère qui nous a un petit peu rétréci dans l'élan missionnaire ? C'est que la mondanité a pris le dessus sur la foi chrétienne, sur cette dimension. Le critère, c'est simplement un jugement humain, c'est plus un jugement chrétien. C'est-à-dire, il faut se respecter tous. Bien sûr, il faut toujours respecter tout le monde. Mais l'enjeu, chrétiennement, si nous respectons tout le monde, nous avons à tous leur annoncer le Seigneur. Sans leur imposer, mais leur annoncer. Et là, vous voyez, c'est plutôt l'aspect, entre guillemets, d'une mauvaise compréhension de l'humanisme qui est passé devant le christianisme chez beaucoup de chrétiens. Vous voyez ? Je vis, mais je ne dis pas. Je vis, mais je n'annonce pas forcément par respect. Non, je vis et je dis aussi ce que je vis. Pour que mon frère comprenne le signe. Et ce n'est pas lui imposer, c'est simplement le dire. Vous voyez, ça c'est très important. Il y a aussi une réduction de la compréhension du salut. On peut de toute façon on peut être sauvé sans Jésus. Les autres religions sauveront aussi. Les gens bien, ils iront au ciel comme ça. Et là on rentre dans le concept de l'urgence que je parlais tout à l'heure. Effectivement, Dieu peut passer au-delà des sacrements. Si nous, les sacrements, c'est la voie ordinaire de la grâce, Dieu peut passer au-delà des sacrements, de manière extraordinaire. Et il est le maître. Il a touché saint Paul sur le chemin de Damas comme il a voulu. Très bien. Mais toujours est-il, il a voulu la médiation. Et une très grande part du travail ne sera pas fait sans notre aide. Parce qu'il le veut que ça soit ainsi. Il a voulu les apôtres, il a voulu les missionnaires. Ça veut dire quelque part que Dieu veut que tout homme allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vu que tout homme soit sauvé par le baptême. Et donc nous rentrons là dans une urgence, en comprenant dans la foi, et ça c'est une manière juste orthodoxe de la foi, elle a été rappelée il y a quelques années, parce que ça fait débat, que le seul sauveur c'est Jésus-Christ, de tous les hommes, du musulman, du bouddhiste, de l'athée, etc. Et donc l'enjeu c'est d'évangéliser pour proposer Jésus-Christ comme sauveur de tous les hommes, et non pas comme le sauveur simplement des chrétiens. Or, cette conscience de l'unique sauveur du Christ, comme le Christ, l'unique sauveur, elle a été amoindrie chez nos chrétiens contemporains dans les années 70 et après. Ce qui fait qu'on peut être sauvé chacun d'une manière différente. Ce qui fait que ça tarit le zèle missionnaire. Voyez. Or, nos frères aînés missionnaires sont morts pour baptiser. Voyez. Sont morts pour donner leur vie. Henri Dory, il a fait très peu de temps, mais il est allé en Corée parce qu'il avait souci d'évangéliser et de baptiser. On voit que c'est, si l'on ne prend plus conscience que l'enjeu c'est de baptiser, d'annoncer le salut, l'unique salut en Jésus-Christ, pas la peine de missionnaire. Voyez ? Donc la perte de conscience du sens du salut, l'unicité du salut en Jésus-Christ, ben, ça a fait que quelque part on a tari le zèle missionnaire. On y rajoute cela une fausse compréhension du prosélytisme et du respect humain mondain, on en finit par se taire. Vous voyez ? Ça, c'est le contexte un petit peu. qui a amené ces choses-là. Or, effectivement, mon peuple meurt faute de connaissance, nous rappelle la parole de Dieu dans le chapitre, dans le livre d'Osée. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance qui sauve et elle est nécessaire. Dieu veut se faire connaître, Dieu veut répandre son amour. Voyez ? Nous devons dialoguer avec les autres religions, absolument. Nous devons dialoguer avec nos frères et sœurs contemporains, athées, agnostiques, tout à fait, à travers la philosophie, à travers tous les moyens, et à travers le dialogue théologique, spirituel, tout à fait. Mais dans le texte même, le décret sur la liberté religieuse, nous avons à proposer, c'est cité, Jésus-Christ comme chemin, vérité et vie. Le dialogue ne suffit pas, il doit permettre à un moment donné l'annonce. L'annonce. Ce qui est très étonnant, c'est que la conversion de nos frères aujourd'hui musulmans nous rappelle aussi qu'il faut annoncer. Nous rappelle aussi qu'il ne faut pas en rester qu'au dialogue, jamais dans l'opposition, mais toujours à un moment de dire « si je crois que c'est la vérité et que Jésus est ce qu'il y a de plus grand, mais je l'annonce. » Et nos frères nous disent même « pourquoi vous ne l'annoncez pas? Pourquoi on ne vous voit pas chrétien? Vous ne portez pas de croix, pourquoi ?» Ça, c'est un juif qui a dit ça un jour à des chrétiens convertis. Juif converti qui a dit ça il y a quelques années à l'ISS. Voyez, il nous rappelle l'urgence de la mission. Les convertis nous rappellent le zèle missionnaire que les premiers chrétiens avaient. Voyez, et nous, quelque part, il y a une forme d'affadissement, parce que je dis encore une fois, tout ne se vaut pas, tout ne se vaut pas. Si le Christ est la vérité, ce n'est pas Allah, ce n'est pas Bouddha, c'est plus grand, c'est pas Socrate, c'est plus grand. Voyez, ça c'est important, ça c'est une condition nécessaire. S'il n'y a pas la conviction que Jésus est sauveur, ça ne sert à rien d'être missionnaire. Si on est convaincu que Jésus est sauveur, alors on peut croire effectivement qu'il y a un enjeu pour la mission. Et donc on va y aller. Ah maintenant, comment on va y aller? Parce que l'enjeu n'est pas de faire du prosélytisme. Alors je voudrais lire un nouveau passage de Paul VI sur cela, qui dit l'importance primordiale du témoignage de vie et qu'il conjugue après cette articulation avec la nécessité d'une annonce explicite. D'ailleurs, une proclamation de la parole. On y va. L'évangile doit être proclamé d'abord par un témoignage. Voici un chrétien ou un groupe de chrétiens qui, au sein de la communauté humaine dans laquelle ils vivent, manifestent leur capacité de compréhension et d'accueil, leur communion de vie et de destin avec les autres, leur solidarité dans les efforts de tous pour tout ce qui est noble et bon. Voici qu'en outre, ils rayonnent d'une façon toute simple et spontanée, leur foi en des valeurs qui sont au-delà des valeurs courantes, et leur espérance en quelque chose qu'on ne voit pas, dont on n'oserait pas rêver. Par ce témoignage sans parole, ces chrétiens font monter dans le cœur de ceux qui les voient vivre des questions irrésistibles. Pourquoi sont-ils ainsi? Pourquoi vivent-ils de la sorte? Qu'est-ce ou qu'est-ce qui les inspire? Pourquoi sont-ils au milieu de nous? Un tel témoignage est déjà proclamation silencieuse, mais très forte et efficace, de la bonne nouvelle. Il y a là un geste initial d'évangélisation. Les questions que voilà seront peut-être les premières que se poseront beaucoup de non-chrétiens, qu'ils soient des gens à qui le Christ n'avait jamais été annoncé, des baptisés non-pratiquants, des gens qui vivent en chrétienté, mais selon des principes nullement chrétiens, ou des gens qui cherchent, non sans souffrance, quelque chose ou quelqu'un qui devine sans pouvoir le nommer. D'autres questions surgiront plus profondes et plus engageantes, provoquées par ce témoignage qui comporte présence, participation, solidarité, et qui est un élément essentiel, généralement le tout premier, dans l'évangélisation. À ce témoignage, tous les chrétiens sont appelés et peuvent être, sous cet aspect, de véritables évangélisateurs. Nous pensons spécialement à la responsabilité qui revient aux migrants dans les pays qui les reçoivent. Ça, c'est-à-dire le témoignage de vie, la manière de vivre chrétienne qui diffère du monde. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça intrigue. Pourquoi ils ont toujours la paix? Pourquoi ils sont heureux? Pourquoi ils bénissent le Seigneur? Pourquoi ils donnent aux pauvres? Plein de choses comme ça, mais une certaine quantité d'éléments. Pourquoi le dimanche, ils vont à la messe? Il y a autre chose à faire, il y a téléfoot, quoi. Plein de choses qui font, au bout d'un moment, ça fait un type de vie chrétienne. Et posons-nous la question, si notre type de vie n'interpelle pas, est-ce que notre type de vie n'est pas trop dilué dans la mondanité? Voyez, là à nouveau, il faut être prophète par ses actes, donc ça doit poser question, voire même ça doit être, comme dirait Jésus, signe de contradiction. ça doit vraiment interpeller. Voilà. Pourquoi vous levez à 2h du matin, aller dans cette pièce qui s'appelle un oratoire, prier? Il n'y a pas autre chose à faire. Mais non, c'est bien. Mais ça, c'est important. Pourquoi tu lui pardonnes? Il t'a fait tellement de grâce, non? Parce que Jésus a dit que je pardonne, c'est important. Mais type de vie. Donc ça, c'est important. Et le prophète qui parlerait mais qui ne vivrait pas, il fait de la publicité. Ça, c'est la cohérence de vie. C'est le premier, des fois dans certains pays, de persécution contre les chrétiens, on ne peut plus dire la parole. Donc il n'y a plus que la manière de vivre. Le cardinal Van Thuan, qui est, si je ne me trompe pas, un Vietnamien, qui est resté très longtemps en prison, les soldats qui le gardaient se changeaient souvent de soldats, parce qu'il était tellement bon avec les soldats qu'il les convertissait. Donc, le témoignage de vie. Ceci dit, n'en restons pas là, frères et sœurs. Je vous ai parlé, ça c'est une dimension du prophète. Mais allons jusqu'au bout. Et c'est important d'aller jusqu'au bout aujourd'hui. Alors qu'il y a plein d'autres messages, de faux dieux, de fausses conceptions de l'homme. Il faut dire toute la parole. Nécessité d'une action, d'une annonce explicite. Et ça c'est le pape Paul VI. Et cependant, cela reste toujours insuffisant. Entendons cela. Malgré tout le témoignage que nous avons dit, et cependant, cela reste toujours insuffisant. Car le plus beau témoignage se révélera à la longue impuissant s'il n'est pas éclairé, justifié, ce que Pierre a appelé, donné les raisons de son espérance, explicité par une annonce claire, sans équivoque, du Seigneur Jésus. La bonne nouvelle proclamée par le témoignage de vie devra donc être, tôt ou tard, proclamée par la parole de vie. Il n'y a pas d'évangélisation vraie si le nom, l'enseignement, la vie, les promesses, le règne, le mystère de Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, ne sont pas annoncés. En gros, pourquoi tu vis comme ça? C'est extraordinaire, je vis comme ça. Mais si tu ne lui donnes pas la raison pourquoi tu vis, tu ne vis pas la foi, ben lui ne peut pas non plus le vivre après. Vous voyez? Et il y a aussi, on se met trop la pression. Je continue, je vais commenter après. L'histoire de l'Église, nous dit toujours le pape Paul VI, depuis le discours de Pierre le matin de Pentecôte, s'entremêle et se confond avec l'histoire de cette annonce. À chaque nouvelle étape de l'histoire humaine, l'Église, constamment travaillée par le désir d'évangéliser, n'a qu'une hantise. Qui envoyer annoncer le mystère de Jésus? Dans quel langage annoncer ce mystère? Comment faire pour qu'il retentisse et arrive à tous ceux qui doivent l'écouter? Cette annonce, kérigme, prédication ou catéchèse, prend une telle place dans l'évangélisation qu'elle en est souvent synonyme. Elle n'en est cependant qu'un aspect. Et oui, parce que l'évangélisation, c'est tout l'être de la personne, toute sa vie. Voilà, nous sommes en perpétuelle évangélisation nous-mêmes. Très bien. Mais il est vrai qu'il y a la dimension de l'annonce explicite de la foi, comme le dit le pape Paul VI, kérigme, prédication, semblerait un peu la résumer, parce que de fait, elle est nécessaire. Je disais, effectivement, un prédicateur, un missionnaire, un prophète qui n'annonce la parole sans la vivre, par son témoignage de vie, il fait de la publicité. C'est quelque chose qu'il ne vit pas, voilà, espèce de truc vendeur, mais ça ne marche pas. Ça doit être vécu. Mais encore une fois, si nous n'annonçons pas, nous ne donnons pas la lisibilité de pouvoir comprendre vraiment, intégralement ce que nous vivons. Nous risquons de proposer une forme de confusion. Deuxièmement, nous nous mettons plus la pression que nous devrions, c'est-à-dire en gros, j'attends d'avoir un témoignage de vie de malade pour commencer à parler. Rassurez-vous, ça n'arrivera jamais. Nous n'aurons pas un témoignage de vie de malade. Ce sera toujours, comme le dit l'Évangile, nous serons toujours des pauvres vases d'argile fragiles qui contiennent un trésor. Il faut un jour ou l'autre donner le trésor. Si on attend que le vase d'argile devienne un vase d'or, ça n'arrivera jamais. Donc quelque part, c'est orgueilleux. C'est croire que tout dépend de ma perfection. Ben non, mais tu ne seras jamais parfait. Il faut mieux que tu restes peut-être même imparfait, mais que tu commences à donner la parole qui, elle, fait des saints. Voyez ? C'est auto-centré. Maintenant, il faut décentrer. Et surtout, il faut décentrer parce que la parole de Dieu que nous donnons dépasse notre projet de vie, notre propre témoignage. Parce que, comme le dit Isaïe, la parole de Dieu ne revient pas sans avoir fait son effet. C'est-à-dire que nous pouvons, dans un témoignage de vie, la vivre et la dire pour faire comprendre ce que nous vivons et proposer, mais l'autre va la recevoir d'une autre manière parce que c'est la parole de Dieu qui touche. Et là, si nous avions limité la parole de Dieu à ce que nous vivons, peut-être que l'autre ne vivrait jamais parce que ce n'est pas son appel. Donc, il y a un enjeu de dire la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est le contact explicite avec le Seigneur Jésus. Vous voyez ? Donc, il faut passer à un moment donné à dire la parole. Vous voyez, c'est indispensable, dit Paul, si ça ne suffit pas. Et donc, c'est la dimension prophétique de l'annonce explicite, vous voyez, qui doit aujourd'hui revenir vraiment. Et nos jeunes frères et sœurs convertis, qu'ils soient d'une autre religion ou anciens athées, nous diraient, mais pourquoi vous ne nous avez pas annoncé ça plus tôt? Je ne le savais pas. Mais il faut y aller. On a ce devoir-là. Et la crainte du prosélytisme doit être dépassée, le respect humain doit être dépassé, le contexte ecclésial passé doit être dépassé. Voilà, on y va. Décontracté et on y va. Et quand on y va, il faut dépasser la peur. N'ayez pas peur, dit le Christ ressuscité. Et on peut avoir peur. Alors je dirais, par expérience, mais peut-être d'autres, trois formes de peur qui encore paralysent le missionnaire qui veut y aller. La première peur, c'est... Non, on va dire quatre peurs. La première peur, c'est « je ne suis pas capable ». Non, mais c'est un truc pour les super forts. Je ne vais jamais y arriver. Alors, depuis le baptême et la confirmation, on a tout le kit du missionnaire. Puisque celui qui évangélise, ce n'est pas d'abord nous, c'est le Saint-Esprit. Et nous allons apprendre par le Saint-Esprit à évangéliser. Mais comme je le dis, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en évangélisant qu'on devient évangélisateur. On fait des coups d'essai, il y a des ratés, il y a des réussites, et petit à petit ça vient. Petit à petit nous voyons comment le Seigneur nous dispose à tel poste, à telle attitude, dans telle rencontre, dans tel service pour évangéliser. Et on comprend qu'on sera évangélisateur de cette manière-là. Si au départ on dit « mais je ne vais pas y arriver, mais je ne vais pas y arriver », c'est qu'on ne croit pas que la grâce nous éduque. Or la grâce nous éduque. Il y a un travail de la grâce en nous, à l'évangélisation pour former un évangélisateur, et il y a aussi une collaboration de notre part à faire des essais. On n'apprend pas du jour au lendemain à chanter un psaume, on n'apprend pas du jour au lendemain à évangéliser, ça s'apprend, c'est un métier quelque part. Le métier d'apôtre, c'est ça, c'est un travail, hein, c'est un savoir-faire qui s'acquiert. Et c'est vrai, aujourd'hui on était en formation missionnaire. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la peur de faire peur. Alors, on peut faire peur, faut pas la jouer à la Jean-Baptiste, vêtements, je sais pas moi, d'ours ou je sais pas quoi, bâton, convertissez-vous, etc. L'illuminer par excellence, quoi. Faut éviter l'illuminer, quoi. Voilà. Ça, effectivement, cette peur-là, elle est pas bonne. Très bien. Et donc, il faut être très clair, si nous faisons peur, c'est raté. Ça, c'est la peur que nous devons éviter, celle-là. Pas la peur première, je vais pas y arriver, c'est Dieu qui m'aide. Mais cette peur-là, faut l'éviter. Ceci dit, il faut être prêt à être fou pour le Seigneur, ce qui est différent. À sortir un petit peu de ses sécurités. Ce qu'il y a de fou dans le monde, c'est ce que Dieu a choisi. On me disait aujourd'hui qu'il y avait des jeunes en France qui mettaient sur la place publique une fausse mais énorme machine à laver, et dedans ils mettaient un prêtre, ils disaient c'est le grand nettoyage, allez voir. Les gens venaient voir qu'est-ce que c'est, puis ils faisaient ce qu'on fait, c'est quoi. C'est un truc de fou. Mais ça, faut oser, c'est-à-dire dire. Bien sûr, faut pas faire peur, mais il faut avoir de l'audace. Faut pas faire peur, mais il faut avoir de l'audace. Or, aujourd'hui, on est un peu peureux sur la question. Voilà. Troisième peur, et on touche une peur structurelle, interne, ecclésiale et de la société, la peur du changement. Surtout pas changer, quoi. Non, mais tu t'es converti, là, dans la famille, là. Mais arrête de parler de Jésus, là, tu nous énerves. Puis à la messe, ah, c'est génial, Jésus, non, mais vous évangélisez pas, on va y aller. Non, tu nous énerves. Puis au travail, non, tu nous en as parlé deux fois, t'arrêtes là. Voilà. Ou alors, mais il me demande d'évangéliser, ça change mon rythme de vie, maintenant je vais évangéliser le porte-à-porte le samedi, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? La peur du changement. Ben ça, faut pas avoir peur de ça. Le Seigneur a toujours fait des changements, au contraire, un changement c'est bon. Ça repositionne les cartes. Donc en fait, faut y aller. Et si on a peur du changement, sachez, toute structure a besoin d'être évangélisée, toute structure craint le changement parce qu'elle craint sa survie. En fait, les structures n'existent que si elles sont des bons moyens pour évangéliser. Tout ce qui, dans l'Église, ne évangélise plus est caduque. C'est la mission qui est première. Mais c'est pareil dans nos vies. Tout ce qui n'est pas moyen, qui n'est pas lieu d'évangélisation, c'est une question, est-ce que je vis là mon christianisme? Donc c'est peut-être caduque. Voilà. Donc il faut être prêt au changement. Donc ça, c'est le gros. On peut dire, quand on a moins peur d'y aller, quand on ne fait pas peur et qu'on est audacieux, de toute façon, après, on va se taper la peur du changement, mais ça, faut passer à travers. Faut passer à travers. Et ça, c'est le début du combat spirituel. C'est-à-dire, là, il y a quelque chose qui se joue, qui va nous ralentir. Soit nous-mêmes, soit les autres, on dit, non, on change pas, etc. Faudra continuer. faudra continuer. On voit dans la vie des saints, des missionnaires, ils sont pris des coups, on voit dans les paroisses des fois des levées de boucliers parce qu'il y a un tel changement, etc. Mais ça portera du fruit, il faut le faire, c'est la structure, c'est pas la mission, on y va, on continue. La mission demande de nouvelles structures. Le pape François, dans Evangelii Gaudium, le rappelle cela, hein. Pas de préservation de structures inutiles, obsolètes. C'est pareil dans nos vies. Troisième chose, enfin quatrième élément de peur, et ça c'est le plus profond, vous pouvez l'interpréter avec l'évangile de Saint Jean, quand la lumière est venue, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière de peur que leurs œuvres soient reconnues comme mauvaises. C'est-à-dire que l'évangélisation, c'est l'annonce de la vérité, c'est l'annonce de la lumière, Jésus qui sauve, mais aussi qui révèle ce qui ne va pas dans l'homme. Ah, la lumière, elle éclaire, elle montre la poussière, elle montre tout. Et donc en fait, il y a de la résistance. Il y en a un qui ne veut pas qu'on annonce, c'est le malin, le démon, alors il nous découragera. À moindre passe, mais tu vois, t'es pas fait pour ça, tu vois, t'y arrives pas. Il nous découragera à travers la structure. Combien d'évangélisations sont détruites par l'inertie structurelle, interne à l'Église ou dans la société. On se décourage, on n'y arrive pas, c'est lourd, on n'arrive pas à en mettre en place, parce qu'on persévère pas. Il faut persévérer, hein. Quand vous faites du porte-à-porte, vous pouvez avoir 10 sonnettes où les gens vous 10 portes où les gens vous ouvrent pas la porte. Hein. Si vous persévérez pas, à la 11e, vous n'aurez pas la rencontre, vous allez prier avec la personne, etc. Et là, le démon peut dire, mais tu vois, tu n'y arrives pas, tu ne sers à rien, c'est pas ça, tu trompes. Il faut persévérer. Donc le découragement, c'est une forme de combat spirituel. Voilà. La peur aussi de ne pas voir les fruits tout de suite. Voilà, mais je ne vais pas voir ce que je fais, mais on sème, comme le semeur. On récoltera plus tard, c'est pas nous, on y va. Il y a des martyrs, il y a des missionnaires qui arrivaient dans les pays, ils sont morts tout de suite. Ça ne sert à rien, ils n'ont rien servi. Et j'ai un ami maintenant qui est prêtre, qui racontait cela quand qui avait été en Inde, qui était allé dans un pays, en Inde, une contrée d'Inde plutôt, et il voyait tout un village qui était évangélisé. Il s'est dit, mais pourquoi ils sont évangélisés? En fait, c'est les gens ont été évangélisés parce qu'ils sont allés voir une tombe de martyrs en disant, mais pourquoi ils sont morts eux? En fait, ça produit tellement de fruits que les gens, ils ont mangé tous la foi. Donc vous voyez, on sème et on récoltera d'autres récolteront. Donc on y va. Donc la peur de voir son fruit ou de ne pas voir son fruit, c'est un faux problème. Le fruit revient à Dieu, l'œuvre revient à Dieu, mais nous, il demande de participer. Donc je disais, le démon attaque en extérieur, soit par une forme de lassitude, l'inertie des structures, le découragement, mais aussi au bout d'un moment, l'agressivité du destinataire. C'est-à-dire, vous annoncez le Seigneur, quand vous dites rien, vous êtes bon, faites un peu de caritatif, tout va bien. Vous êtes bon, vous êtes un héros. Commencez à parler de Jésus, ah non, toi, tu vas te taire. Vous êtes un peu trop explicite dans le message, taisez-vous. Et là, ça monte en créneau, ça monte un peu en agressivité. C'est quoi au niveau spirituel? C'est les ténèbres qui ne veulent pas que la lumière rentre. Et là, faut être très clair dans le discernement. On continue. C'est un faux combat. Le seul combat, c'est pas à faire peur. C'est pas à soi-même ne pas avoir peur, ne pas se décourager. Mais le changement structurel, faut y aller, si c'est nécessaire. Et de même, l'opposition spirituelle, faut y aller. On n'est pas en mode guerre sainte, hein. C'est le Seigneur qui fait son œuvre. Mais je veux dire, l'opposition, là, faut avoir conscience qu'il y a une résistance qui vient de l'ennemi du Seigneur. Et ça arrivera dans l'évangélisation. Et quand on n'a pas expérimenté cela, c'est peut-être aussi quand on n'a pas évangélisé tout court. Vous pouvez être très bien avec, pardonnez-moi, je le dis pour moi aussi, avec nos amis, en tout bien, tout honneur, mais on ne leur parle pas de Jésus. Il n'y a pas d'opposition. On commence à leur parler de Jésus, ça monte au créneau. Et bien là, on rentre dans le sujet. Vous voyez? Alors il y a manière et manière d'annoncer. Mais là, on voit la résistance. Vous voyez? Et là, le Seigneur nous demande de la franchir avec son aide. C'est lui qui fait les pas. Mais d'avancer dans ce chemin. Voyez, le Seigneur, c'est le résistant par excellence. Il ne se décourage pas, il prend tous les obstacles structurels, les persécutions et tout, il continue. Voyez, on a voulu le persécuter quand il a dit la parole, hein, dans les synagogues. Hein. Donc, il continue, il voit qu'il y a un combat. Vous voyez, donc il ne faut pas avoir peur du combat. Il ne faut pas avoir peur du découragement, de ne pas voir ses fruits. Il ne faut pas avoir peur du changement, que ce soit structurel, de notre vie ou ailleurs. Faut pas faire peur, par contre. Faut avoir de l'audace. Et faut pas croire qu'on va pas y arriver. Faut être confiant. C'est le Seigneur qui donne l'aide. Et on franchit ces peurs petit à petit, elles reviennent à tout moment. Voilà, le Seigneur ressuscité nous dit, n'ayez pas peur. Donc à ce moment-là, on peut être missionnaire. Et donc, le kit du missionnaire, d'abord, il annonce la parole. Il s'annonce pas lui-même, il annonce la parole de Dieu. Et donc, il est très important pour nous de connaître la parole de Dieu. De connaître la parole de Dieu pour en vivre. et nous annonçons ce que nous croyons et ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Et donc, on en parlait dans la formation missionnaire, il est bon de soi-même être capable de donner un témoignage de comment le Seigneur nous a touchés, comment le Seigneur nous l'avons rencontré. De prendre un temps pour cela. Alors, je vais reprendre ce qu'on disait en formation missionnaire. A, B, C, J. Authentique, bref, centré sur le Christ et joyeux. Donc, pas le super témoignage, le truc que vous n'avez jamais vu, mais que vous sortez, voilà, non, ça sert à rien. Le témoignage peut être très simple, mais authentique. L'important, c'est l'authenticité. Et on ne juge pas son témoignage. Bref, parce que il faut dire simplement les choses, il faut être prêt à donner ce que nous avons reçu à tout moment. Lui dire simplement, moi j'ai rencontré le Seigneur dans ma vie à tel moment, ça a changé ma vie, tu vois, maintenant je suis heureux et je continue. Très bien, bref. Et centré sur Jésus, ben maintenant je suis devenu quelqu'un de bien, machin, tu vois, maintenant j'ai, maintenant et tout. En fait, non, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Mais le but, c'est qu'on conduit un autre que nous, voyez? D'où l'important que le témoignage de vie, à un moment donné, doit mener à la parole, parce qu'on se décentre de nous-mêmes. Un bon prophète qui est un missionnaire, c'est Jean-Baptiste. Lui, il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Hein, c'est Jean 3, 30. Ben c'est ça, on est amené à nous décentrer, donc centrer sur le Christ. Et aussi joyeux, hein, le pape François nous y invite, parce que le témoignage, j'ai rencontré Jésus, c'est la galère. Quoi. Ben non, ça n'aidera pas à évangéliser. Quoi. C'est-à-dire, on croit que c'est une joie d'évangéliser, et donc nous proposons dans la joie le Seigneur. Et nous pouvons toujours avoir la joie, nous rappelle le pape François, même dans les moments douloureux. La joie est plus ténue, mais elle est toujours là. Voilà. Donc ça, c'est important. Je rajouterai que celui qui évangélise est le premier évangélisé. Voilà. Souvent, nous, quelque part, nous sentons plus, entre guillemets, Jésus vivant dans nos vies. Mais quand nous parlons de lui, vient à ce moment-là en mémoire tout ce qu'il a fait pour nous. Et parfois, quand nous parlons de lui, ça touche les cœurs et nous voyons son œuvre en direct. Après cette coupure, nous reprenons. Alors, voilà. Pardon ? Oui, l'évangélisateur, c'est le premier évangélisé parce qu'il prend conscience que ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Il peut voir des fois des signes de l'action de la parole en direct. Et à ce moment-là, il voit le Seigneur agir parfois. Pas toujours, mais parfois. Et ça aide à prendre conscience que Jésus est vivant. Voire même après. Il y a des personnes qui viennent voir, vous savez ce que vous avez dit sur la parole, ton témoignage, ça m'a touché. Et on se rend compte en fait qu'on est porteur d'un trésor. Vous voyez ? Alors qu'on est peut-être des pauvres personnes. Quoi. Et moi, l'exemple type, c'est quelqu'un qui rentre dans une église, ça arrive, histoire vraie, qui rentre dans une église, qui ne semble pas trop avoir la foi, qui se met à prier, il ne sait pas trop et tout. Personne qui vient me voir en disant, mais vous priez ? La personne dit, ah ouais. Il se met à prier à ce moment-là, à partir de là, personne ne va aller dans un compte de prière. La personne a pris conscience qu'il était un petit médiateur, alors que lui-même se disait, mais je ne suis pas grand-chose. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc, le Seigneur nous utilise vraiment. Nul n'est prophète en son pays. Parole de Dieu, ça. Il peut arriver qu'on aura tout fait pour éduquer ses enfants, sa famille. Ça ne marche pas. Très bien. Il ne faut pas se condamner. Il peut y avoir des oublis, il peut y avoir des incohérences, tout ça. Il y a aussi l'esprit du monde qui rattrape. Il faut remettre ça au Seigneur. Par contre, le Seigneur nous demande... Enfin, nous interpelle, est-ce que tu veux être prophète? Est-ce que tu veux évangéliser? Et parfois, le Seigneur nous enverra ailleurs évangéliser. Nous aurons à confier nos proches, et c'est pas là où nous travaillerons. Voyez? J'allais dire, faut pas travailler à un endroit qui bloque si le Seigneur ne nous appelle pas. À un moment donné, nous avons fait ce que nous avons à faire. Il faut évangéliser ailleurs si le Seigneur nous demande d'aller ailleurs. C'est exactement ce que fait Paul. Hein. Paul, il va voir ses frères, les juifs. Ça marche pas. Il va vers les nations. Ça marche à fond. Et le Seigneur nous utilise, mais on ne sera pas forcément le prophète là où on veut être. Du coup, il faut être disponible à ça et accepter de rentrer dans son mouvement. Pour évangéliser, il faut prier pour ça. Seigneur, je veux évangéliser. Il faut passer aux travaux pratiques. Pour commencer aux travaux pratiques, ben on peut mettre une croix au travail, si on peut en mettre encore. On peut dire un mot. Voilà, je veux parler des mots qu'on fait aussi pendant les M-O-T, des mots M-O-T-S, pas les M-O-A-U-X. On fait ça aussi dans le porte-à-porte, c'est parole de sens, parole de vie, parole de consolation. Les paroles de sens, c'est les plus cérébrales. C'est ce qui marche le moins. Mais des fois, ça peut marcher. Vous savez, c'est quand vous dites, ouais, d'accord, Jésus, mais pas l'église, l'inquisition, la contraception, voilà, machin, les gros arguments historiques, pseudo-scientifiques, tout ce que vous voulez, les grosses oppositions, hein, les gros missiles. généralement, peu de personnes sont disposées à vraiment rentrer dans un discours intellectuel, rationnel, j'allais dire, avec une honnêteté intellectuelle. Généralement, c'est des défenses. Donc, ne perdez pas du temps. Là, c'est vraiment un feu rouge. S'il y a un blocage, on n'insiste pas. Voilà. On peut perdre une heure, deux heures de discussion stérile. Et généralement, c'est pas le lieu. Il peut arriver qu'une personne soit très honnête et demande des réponses. Et là, vous pouvez l'éclairer avec votre raison, parce qu'on a à rendre compte de notre foi. Donc, il y a un travail dans l'intelligence. Pour cela, on connaît son catéchisme de l'Église catholique, on vient en formation et on restitue ce qu'on a compris, de manière à donner des perles. Très bien. Mais c'est la plus petite parole. La parole de vie est beaucoup plus forte. C'est-à-dire, on a fait son témoignage, brefement, on l'a écrit, on l'a répété, on sait le parler, on a des portes d'entrée pour le dire. Et puis, la personne nous pose des questions, à un moment donné, on dit, moi, j'ai vécu ça dans ma vie. Voilà, tu sais, j'ai rencontré le Seigneur, etc. On dit, voilà, il a changé ma vie. Et puis, à la fin, on dit, bah, tu vois, il a changé ma vie, il m'a guidé, parce que le Seigneur est mon berger. D'ailleurs, il le dit dans le psaume. Et on amène la parole de vie. Et la parole de vie peut toucher d'une autre manière que nous-mêmes. Vous voyez, cette parole-là, c'est une parole d'authenticité, de témoin. Et Paul VI disait que notre monde a plus besoin de témoins que de maîtres. Ou si ce sont des maîtres, c'est parce qu'ils sont d'abord des témoins. Donc, il nous faut, ça c'est la parole de vie, vous aurez souvent à la dire, nous aurons souvent à la dire. Puis il y a une troisième parole qui se développe de plus en plus, parce que nos frères et sœurs et nous-mêmes, on est de plus en plus déglingués, on a besoin de consolation, c'est la parole de consolation. En fait, on va dire, mais c'est quoi comme parole? Ben, c'est pas une parole, justement. C'est on dit rien. On écoute, on se tait, et les gens, à la fin de la parole, à la fin de l'écoute, vont dire, ça m'a fait du bien, c'est extraordinaire, merci pour ce que vous avez dit, vous leur dites, non mais j'ai rien dit. Mais si, vous m'avez écouté. Et en fait, là, à la fin même de l'écoute, vous pouvez même dire, vous voulez que je prierai pour vous. Vous voulez, je prierai pour vous. Vous voulez qu'on prie. Et en fait, le cœur s'est vidé, elles sont aptes à accueillir le Seigneur. Vous voyez, il y en a même qui sont même en colère contre Dieu, ils vont vider tout leur venin. Après, en fait, ils vont vous écouter. Et vous leur direz un truc sur Dieu, ils s'écouteront complètement. Vous voyez, ça, la parole de consolation, la parole de vie, c'est vraiment important. Des fois, la parole de sens. Ça marche mieux pour la personne qui a reçu la rencontre de Jésus-Christ, mais ça peut marcher, mais c'est très rare. Voilà. On évangélise en priant pour ça. On fait un suivi pastoral, c'est-à-dire on prie pour les personnes qu'on veut aller voir, dans ses voisins, dans sa famille, dans son travail, à la messe, dans le porte-à-porte. On prie, et puis après on y va. Voilà. Et on persévère. Il y a des évangélisations dans la durée. Il y a des évangélisations très courtes qui... Vous sentirez ça, si vous voyez qu'une fois, il faut mettre le paquet. Hein. Et souvent, c'est quand on se reverra jamais qu'on est plus libre. Et souvent, les gens qui viennent vous voir, qui sont sûrs de jamais vous revoir, ils vous lâchent les gros dossiers et là, faut y aller. Voilà. Et des fois, il y a l'évangélisation dans la fidélité, que ce soit pour nos proches. C'est du temps. Ça demande la cohérence de vie. Voilà. Il faut avoir conscience qu'on est missionné par l'Église. À chaque fois que vous allez à la messe, vous entendez « Allez dans la paix du Christ ». C'est pas « Bonne journée, vous êtes tranquille, au revoir hein. ». Non, c'est vous porter la paix, aller dans la mission en portant la paix du Christ. Donc on est envoyé en recevant la parole de Dieu et l'Eucharistie à annoncer le Seigneur, quelles que soient nos vocations. Et donc de fait, nous sommes envoyés par le Seigneur. On n'a pas besoin d'avoir une étiquette, un mandat particulier de l'évêque pour y aller. On est missionnaire, parce qu'on a reçu cet appel à chaque Eucharistie, depuis notre baptême aussi, et amplifié par la confirmation. Donc on peut y aller. Par contre, si vous sentez un appel particulier à évangéliser un secteur au nom de l'Église, des types de populations, des jeunes, etc., il est bon de s'appuyer sur des frères et sœurs à un moment donné, parce qu'on ne se fait pas sa propre mission tout seul. Une chose est d'évangéliser là où on est, comme on peut, au cas par cas. Autre chose est de se dire, moi je me sens appelé dans tel endroit, j'y vais maintenant. Ben, il est bien de remettre cette mission-là à l'Église, à un frère, d'en parler, à un prêtre, pourquoi pas, ou quelqu'un d'autre, et dire, voilà, je pense que je suis appelé, est-ce qu'on peut prier pour ça ? Dans les fraternités, on invite à prier les frères et sœurs, à discerner ensemble quel est le lieu d'apostolat pour tous ou pour certains à y aller et se sentir, j'allais dire, soutenus. C'est pour ça que Jésus envoyait même deux par deux les apôtres, parce que l'enjeu, c'est l'un parle, l'autre écoute. Dans le porte-à-porte, c'est ce qu'on fait. Voilà. Donc voilà un peu plein d'éléments pour un pot pourri, pour, on pourrait dire, sur être missionnaire. L'Église existe pour la mission. L'Église existe pour la mission. Alors, je vous ai promis quelques paroles de Jean-Paul II, de Saint Jean-Paul II et du pape François, donc je vous les donne maintenant dans la lettre Novo Millennio Innuente, au début du nouveau millénaire. Voilà ce que écrivait Saint Jean-Paul II sur l'annonce de la parole. Nous nourrir de la parole, pour que nous soyons des serviteurs de la parole. Dans notre mission d'évangélisation, c'est assurément une priorité pour l'Église au début du nouveau millénaire. On doit considérer comme désormais dépassé, même dans les pays d'ancienne évangélisation, c'est une autre, la situation d'une société chrétienne qui, en dépit des nombreuses faiblesses dont l'humain est toujours marqué, se référait explicitement aux valeurs évangéliques. Aujourd'hui, on doit affronter avec courage une situation qui se fait toujours plus diversifiée et plus prenante. Dans le contexte de la mondialisation et de la mosaïque nouvelle et changeante de peuples et de cultures qui la caractérise, à maintes reprises, j'ai répété ces dernières années l'appel à la nouvelle évangélisation. Je le reprends maintenant surtout pour montrer qu'il faut raviver en nous l'élan des origines, en nous laissant pénétrer de l'ardeur de la prédication apostolique qui a suivi la Pentecôte. Nous devons revivre en nous le sentiment enflammé de Paul, qui s'exclamait en 1 Corinthiens 9,16 « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile ». Cette passion ne manquera pas de susciter dans l'Église un nouvel esprit missionnaire, qui ne saurait être réservé à un groupe de spécialistes, mais qui devra engager la responsabilité de tous les membres du peuple de Dieu. Celui qui a vraiment rencontré le Christ ne peut le garder pour lui-même, il doit l'annoncer. Il faut un nouvel élan apostolique qui soit vécu comme un engagement quotidien des communautés et des groupes chrétiens. Je fais une parenthèse, engagement quotidien. On fait son examen de conscience, pourquoi ne ferions-nous pas notre examen de conscience missionnaire? Cette semaine, est-ce que j'ai parlé de Jésus? Est-ce que je suis allé voir la boulangère et j'ai dit « Bonne journée, merci pour le pain, que le Seigneur vous bénisse ». Ce mot-là, simplement dans la semaine. Et tout bête. Examen de conscience missionnaire. Je mets la parenthèse. Il faut un nouvel élan apostolique qui soit vécu comme un engagement quotidien des communautés et des groupes chrétiens. Cela se fera toutefois dans le respect dû au cheminement toujours diversifié de chaque personne et dans l'attention à l'égard des différentes cultures dans lesquelles le message chrétien doit être introduit. De sorte que les valeurs spécifiques de chaque peuple ne soient pas reniées, mais purifiées et portées à leur plénitude. Commentaire. Chaque personne a son temps. C'est-à-dire que le Seigneur, il avance progressivement à certaines vitesses pour chacun. Si nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit, nous verrons des fois, il faudra aller très vite, dire tout le paquet, des fois prendre son temps, parce que la personne est hésitante, elle a besoin de mâcher pour digérer. De la même manière, un grand respect de nos interlocuteurs, parce qu'ils souvent ils sont honnêtes, ils cherchent vraiment, sans savoir, le Seigneur. Et quelque part, l'évangélisation, ça sera comme une mise en lumière de ce qu'il y a de meilleur en eux, et en même temps, un approfondissement de ce qu'ils n'ont pas encore trouvé. Le christianisme, dit le pape Jean-Paul II, du troisième millénaire, devra répondre toujours mieux à cette exigence d'inculturation, tout en restant pleinement lui-même, dans l'absolue fidélité à l'annonce évangélique. On n'annonce pas un Jésus tronqué, ou une sorte de religion spirituelle un peu pour tout le monde, chacun fait comme il veut. Non, on annonce toute la foi. Dans l'absolue fidélité à l'annonce évangélique et à la tradition ecclésiale, il revêtira aussi le visage des innombrables cultures et des innombrables peuples où il est accueilli et enraciné. Voilà, ce que nous mit Saint-Père, c'est quand même beau. Et je finirai par ce que dit le pape François dans son lettre, son exhortation apostolique sur l'évangélisation, en citant le passage de rencontre de personne à personne pour évangéliser. Maintenant que l'Église veut vivre un profond renouveau missionnaire, il y a une forme de prédication qui nous revient à tous comme tâche quotidienne. Il s'agit de porter l'Évangile aux personnes avec lesquelles chacun a affaire, tant les plus proches que celles qui sont inconnues. C'est la prédication informelle que l'on peut réaliser dans la conversation. Et c'est aussi celle qui fait un missionnaire quand il visite une maison. Être disciple, c'est avoir la disposition permanente de porter l'amour de Jésus aux autres, et cela se fait spontanément en tout lieu, dans la rue, sur la place, au travail, en chemin. Dans cette prédication, toujours respectueuse et aimable, et entre parenthèses, nous aimons nos frères vers qui nous aimons, parce que le Seigneur les aime. Voilà. On ne leur vend pas un message, on les aime profondément, on leur donne le message parce qu'on croit que c'est ce qu'il y a de meilleur. Vous voyez ? Fin de parenthèse. Dans cette prédication toujours respectueuse et aimable, le premier moment consiste en un dialogue personnel. où l'autre personne s'exprime et partage ses joies, ses espérances, ses préoccupations pour les personnes qui lui sont chères et beaucoup de choses qu'elle porte dans son cœur. C'est seulement après cette conversation qu'il est possible de présenter la parole, que ce soit par la lecture de quelques passages de l'Écriture ou de manière narrative, mais toujours en rappelant l'annonce fondamentale. L'amour personnel de Dieu, qui s'est fait homme, s'est livré pour nous et qui est vivant, offre son salut et son amitié. C'est l'annonce qui se partage dans une attitude humble de témoignage de celui qui est toujours sait apprendre. Donc nous n'annonçons pas que nous savons tout, nous annonçons celui qui est la vérité et nous sommes toujours à son école. Voilà. De celui qui sait toujours sait apprendre, avec la conscience que le message est si riche et si profond qu'il nous dépasse toujours. Parfois, il s'exprime de manière plus directe, d'autres fois à travers un témoignage personnel, un récit, un geste, ou la forme que le Saint-Esprit lui-même peut susciter en une circonstance concrète. Si cela semble prudent et si les conditions sont réunies, il est bon que cette rencontre fraternelle et missionnaire se conclue par une brève prière qui rejoigne les préoccupations que la personne a manifestées. Ainsi, elle percevra mieux qu'elle a été écoutée et comprise, que sa situation a été remise entre les mains de Dieu, et elle reconnaîtra que la parole de Dieu parle réellement à sa propre existence. On retrouve ce matin, la veuve de ce matin qui dit « C'est vrai la parole, oui, la parole de consolation, je me suis senti écoutée. » Voilà. Donc voilà, donc il faut y aller. Il faut demander cette grâce au Seigneur, il faut y aller, et le Seigneur donnera les charismes nécessaires pour le faire. Voilà, les charismes viennent en y allant. Voilà. Amen.